Bonjour et bienvenue sur le podcast Couple Heureux. Je m'appelle Pascal Kionkion et je vais partager avec vous toutes les clés pour être heureux à deux. Nous nous retrouvons pour la suite de l'émission qui s'intitule « Est-il normal de faire des efforts dans son couple ?» Bienvenue pour ce deuxième épisode. Adrien me racontait qu'il avait le sentiment de s'épuiser à faire effort après effort dans son couple. Il avait l'impression de s'épuiser à tenter de plaire à sa femme sans y parvenir, au point de se demander « est-ce normal de faire autant d'efforts dans un couple ?» Stella vivait les efforts en couple comme une galère. Elle voulait bien que son mari se sente aimé, mais l'idée de faire certaines choses qu'elle n'aimait pas faire naturellement lui paraissait insurmontable. Les deux exemples que je viens de partager avec vous illustrent l'ampleur de la difficulté de faire des efforts en couple. Cela n'enlève en rien le fait qu'il soit normal de faire des efforts en couple. Faire des efforts est une part non négociable de la vie à deux. Et si vous ne vouliez pas faire d'efforts, c'est comme si vous sautiez en parachute sans parachute. Vous alliez forcément vous écraser et faire s'écraser votre couple en même temps. Maintenant, c'est la place que peut prendre cette idée dans la vie du couple qui peut devenir plus ou moins pénible. Et si votre couple a de nombreux domaines convergents, les efforts seront nécessaires, mais dans bien des cas, ils seront moindres que s'il y a très peu de domaines communs qui sont trouvés dans votre couple. C'est une des raisons pour laquelle il est bien utile de prendre le temps de se connaître dès que la perspective de couple est envisagée. Et quand je dis « apprendre à se connaître », il est bien question de chercher à se connaître. Ce n'est pas en attendant que les découvertes sur l'autre tombent naturellement que vous apprendrez à vous connaître. Cette découverte mutuelle devrait être le résultat d'une démarche intentionnelle, volontaire. Vous vivrez telle et telle chose dans le but d'apprendre à vous connaître. Un équilibre est à trouver pour vivre le couple naissant dans la légèreté et le plaisir, tout en créant des temps et expériences qui ont pour but déclaré d'apprendre à se connaître. Ça peut se faire sous forme de jeux, de questions, de quiz, de week-ends d'aventure ou de semaines de vacances ou autres. Les moyens sont nombreux. Et je vous mets sur le blog Couple Heureux un lien pour aller apprendre à plus vous connaître en couple, un quiz qui est vendu sur Amazon. Apprendre à se connaître en couple peut simplifier les efforts à faire. Et si vous n'aviez pas conscientisé le besoin d'apprendre à vous connaître, il n'est pas du tout trop tard. Ne pensez pas que vous êtes coincé et que vous aurez des efforts plus importants à faire que des couples qui ont pris le temps de s'apprendre. Ce n'est pas une loi. Et justement, c'est peut-être tout le contraire. Car prendre le temps d'apprendre à mieux vous connaître, même après de nombreuses années de vie commune, peut faire baisser la pression dans votre relation et conduire à une baisse des efforts. Plus vous connaîtrez votre conjoint, et plus les efforts que vous ferez seront justes, plus vous les verrez justes et pertinents, et plus votre enthousiasme à en faire d'autres sera grand. Je vous parle d'une tendance, pas d'une évidence. Ce que je viens de dire n'est malheureusement pas toujours valable. Vous faites des efforts en couple, mais sont-ils vus comme tels? Faire des efforts comporte une notion subjective quelque part. L'effort en soi n'est pas mesurable. Vous pouvez avoir l'impression d'avoir donné beaucoup, alors que votre conjoint aura l'impression que vous lui avez donné très peu. Et à l'inverse, vous pouvez avoir fait un tout petit effort, voire aucun effort, et constater que votre conjoint vous remercie pour l'effort que vous avez fait pour telle ou telle chose. Alors avant d'aller plus loin, ne mesurez pas les efforts que vous faites à l'impression que vous avez en tant que producteur d'efforts, mais en vous basant sur la perception de la personne destinataire de vos efforts, en l'occurrence votre conjoint. Après tout, vous ne faites pas des efforts pour vous réjouir de les avoir faits, mais dans le but que votre conjoint perçoive la réponse à son attente ou à ses besoins exprimés. Cette idée peut ouvrir une grande porte vers la frustration. C'est vrai qu'il est naturel que vous attendiez davantage de reconnaissance quand vous avez l'impression d'avoir fourni davantage d'efforts. Le fait d'intégrer que les choses ne marchent pas comme cela peut sans doute vous aider et vous aider à limiter notamment la frustration. Focalisez votre attention sur la perception de votre conjoint et non sur la vôtre. Par exemple, si vous avez fait l'effort de ranger la cuisine alors que c'est loin d'être votre naturel, qu'en plus ça vous a pris la tête, Si on ajoute que vous avez trouvé que c'était long et qu'en plus votre film a commencé avant que vous ayez terminé ce que vous aviez entrepris, vous aurez envie que votre conjoint mesure votre effort. Mais est-ce vraiment possible ? Est-il raisonnable de demander à quelqu'un pour lequel ce n'est pas un effort de comprendre à quel point ce que vous faites vous a demandé un effort ? Difficilement, vous êtes d'accord. Certains conjoints parviennent à le faire quand ils sont bien informés du poids de certaines actions. En général, c'est parce que les occasions d'apprendre à se connaître ont été créées, que des discussions ont mis en évidence la difficulté ou la non-envie de faire telle ou telle chose. Dans ces situations-là, il est possible de remercier son conjoint pour l'effort en tant que tel, sans tenir compte du résultat. Cela dit, sans ces étapes d'apprentissage conjugal, il est tout à fait possible qu'après un épisode ressemblant à celui que je viens de décrire, votre conjoint ne voit pas l'effort. Vous avez fait la vaisselle, vous avez pris du temps, vous êtes appliqué, vous avez raté le début de votre émission et votre conjoint n'a pas vu l'effort. Alors sans vouloir trop en ajouter, il est même possible qu'il vous fasse une remarque sur une chose que vous avez oublié de faire ou que vous avez mal faite. Aïe, oui, je vous rejoins, ça fait encore plus mal. En résumé, n'attendez pas de récompense ou d'éloge pour vos efforts, même si c'est difficile à accepter. Vivez l'effort en visant le confort de votre conjoint. Le temps de vous réjouir viendra naturellement lorsque vous verrez le mieux-être ou le bonheur manifeste de votre conjoint. Mais chaque chose en son temps. Souvenez-vous que tout le monde ne verbalise pas forcément son plaisir. Donc ce n'est pas nécessaire que vous voyiez dans l'immédiateté l'impact de l'effort que vous avez effectué. Certains l'expriment sans parole. En travaillant à connaître votre conjoint, vous saurez comment il manifeste sa reconnaissance pour vos efforts détectés. Et vous aurez de plus en plus peut-être de satisfaction en termes de retour sur un effort que vous avez effectué et qui vous a peut-être demandé beaucoup plus d'efforts que vous ne pouviez l'imaginer ou même que votre conjoint ne pourrait l'imaginer puisque, comme je le dis, l'effort fait partie du non-naturel. Si c'était naturel pour vous, vous ne feriez pas d'effort. Donc quand votre conjoint vous demande quelque chose qui n'est pas naturel pour vous, eh bien vous entrez d'office dans cette démarche de faire un effort. Vous pouvez travailler à vos efforts de deux manières et je vous propose d'effleurer ces deux manières de travailler de manière à profiter de la méthode la plus efficace. La première méthode, c'est de travailler à vos efforts en couple par sujet. Je m'étais engagé à revenir sur la différence entre les sujets et les domaines en matière d'efforts, donc je voudrais l'approfondir maintenant. Et de très loin, je préfère que vous fassiez des efforts en visant un domaine plutôt qu'un sujet. Si vous avez écouté l'émission de la semaine dernière, vous l'avez déjà compris. Un sujet représente une situation très précise, hyper contextualisée. Voici des exemples de sujets. Faire la vaisselle plus souvent, sortir la poubelle, s'occuper des enfants à leur retour de classe, cuisiner plus sainement, faire plus souvent le ménage, parler aux enfants sans crier, boire moins d'alcool ou manger moins de chocolat ou de confiserie, ça pourrait être, ou d'autres choses qui sont considérées par votre conjoint comme étant mauvaises pour vous. Aller au lit plus tôt ou plus tard si vous avez un conjoint qui est un couche-tard. Passer moins de temps devant les écrans. Donner une autre hiérarchie à vos priorités, etc. En focalisant votre attention sur un sujet, vous aurez tendance à cibler le seul sujet. Vous veillerez donc à sortir les poubelles, à passer moins de temps devant les écrans ou à parler aux enfants sans crier, en vous centrant sur le sujet. C'est déjà une belle avancée, mais il est fort possible que vous ne compreniez pas où vous allez en acceptant de travailler sujet par sujet. En somme, votre approche de l'effort sera décousue et probablement sans direction. C'est une des raisons pour laquelle j'entends certains conjoints me dire qu'ils sont perdus. Ils ne comprennent plus leur conjoint. Ils ont l'impression de crouler sous une liste de choses à prendre en compte pour faire des efforts. Et c'est devenu trop lourd pour eux. Ils ne voient pas de direction dans la liste des doléances de leur conjoint. Ils ne voient qu'une liste de choses à faire et à ne pas faire. Ils ont parfois l'impression qu'ils n'y arriveront jamais. L'approche par sujet peut donc devenir pénible, surtout quand la liste s'allonge au fil du temps. Et de toute façon, naturellement, elle s'allongera au fil du temps, puisque vous vivrez des choses nouvelles, vous rencontrerez des personnes nouvelles, des situations nouvelles, donc la liste risque de s'allonger. Et elle pourrait vous donner l'impression de n'avoir aucun lien entre les différents sujets. Pourtant, il est très rare qu'il n'y en ait pas. Il serait plus juste de dire que vous n'arrivez pas à en trouver parce que, entre autres, vous focalisez votre attention sur des sujets et non sur des domaines. C'est justement là que réside le secret de l'approche par domaine. Considérez les liens entre les sujets. L'approche par domaine demande une prise de recul pour identifier les corrélations présentes dans une demande d'effort, dans un sujet où on vous demande de faire un effort. L'esprit de votre conjoint n'est pas décousu. Il fonctionne et résonne avec une cohérence bien à lui. Sans que votre conjoint ne s'en rende compte, il suit une logique régie par des rituels qui sont personnels, familiaux, sociétaux. Il ne vous demande donc pas de descendre les poubelles par hasard. Imaginez que le cerveau de votre conjoint a défini des secteurs de la vie conjugale. Chaque secteur recouvre des aspects de la vie à deux. Il y a la manière d'être en relation à deux, en présence des enfants, en relation en l'absence des enfants, devant des tierces personnes, en présence de membres de la famille élargie, devant des amis, des relations du couple, des relations des enfants, etc. Un autre secteur pourrait être la gestion de la maison sur le plan alimentaire, l'ordre de la maison, l'organisation du planning de la famille, la hiérarchie des priorités, etc. Un autre secteur pourrait être les finances de chacun des membres du couple, les finances du couple, celles qui sont consacrées aux enfants, qui incluent les obligations également, les loisirs, l'alimentation, les projets en relation avec les finances. Il pourrait y avoir un autre secteur, les relations sexuelles, à quel moment, où, comment, avec qui, dans quelle tenue, dans quelle position, etc. Et puis un autre secteur pourrait être l'hygiène et d'autres secteurs. Chaque couple a construit inconsciemment des secteurs. Qu'ils le veuillent ou non, ces secteurs sont parfois communs, mais ils ont également des aspects qui sont très divergents et loin d'être communs. La composition de chacun de ces secteurs varie en fonction de l'histoire personnelle de chacun. Et certains couples mettront l'hygiène dans la relation à soi et à l'autre, par exemple. Et puis d'autres mettront l'hygiène dans les relations sexuelles. Chaque secteur est composé de domaines. Si je reprends le secteur des finances, je vous ai donné des exemples qui disaient que, par exemple, dans le secteur des finances, il y a les finances des membres du couple, les finances des enfants, consacrées aux enfants, les finances qui concernent les obligations, qu'elles soient emprunts ou autres, les loisirs, l'alimentation, les projets, etc. Hein? Donc, si je reprends le secteur des finances, supposons que votre conjoint vous demande de faire l'effort d'être plus économe. Vous aurez besoin de lui demander de préciser sa pensée. Et si sa demande porte sur une baisse des dépenses dans le domaine des loisirs, plus précisément, là on est sur un domaine, par exemple, vous aurez plus de facilité à faire des efforts. C'est très difficile, voire utopique, de vouloir demander des efforts par secteur. Je voudrais que tu fasses des efforts sur les finances, la gestion des finances. Vous êtes devant un univers. Le fait d'aller donner un domaine, je voudrais que tu fasses des efforts dans le domaine dans le secteur des finances et particulièrement le domaine des finances en relation avec les loisirs, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus facile à cerner. Si je reprends l'exemple de faire des économies dans le domaine des loisirs, donc dans ce domaine, il y a de nombreux sujets possibles. Même si je dis que c'est plus facile à cerner, il y a quand même plusieurs sujets possibles. Je vous rappelle qu'il y a les grands secteurs, comme les finances, la sexualité, etc. Dans les secteurs, il y a les domaines. Et dans le domaine, il y a le sujet. Et si je prends cet exemple des finances en relation avec le domaine des loisirs et que je veux donner un exemple de sujet, eh bien, un conjoint pourrait dire « J'aimerais que tu dépenses moins d'argent dans les jeux vidéo. » Là, je suis sur un sujet. Vous voyez, le sujet est très ciblé. Vous ne pouvez pas vous tromper pour satisfaire votre conjoint de prime abord avec un sujet, quand il s'agit d'un sujet, non pas d'un domaine ou d'un secteur. Regardez le montant des dépenses sur le sujet des jeux vidéo, par exemple, sur les 12 derniers mois, et réduisez votre dépense. De combien, justement? Cet exemple est bienvenu pour montrer à quel point certaines demandes nécessitent un échange pour apprendre de l'autre ce qu'il attend. C'est d'autant plus nécessaire qu'il est possible que votre conjoint se trompe sur sa demande. Il peut donc passer à côté de son besoin en visant une demande sujet. C'est moins le cas pour des demandes portant sur un domaine. Vous comprenez donc l'intérêt d'aller travailler plutôt sur des demandes en relation avec des domaines qu'avec des sujets. Dans le cas d'une demande sujet, vous aurez davantage tendance à être un exécutant pour faire tout de suite ce que demande le conjoint. Dans une demande domaine, vous aurez une latitude pour faire preuve de créativité un peu plus, de manière à satisfaire votre conjoint avec beaucoup plus d'intelligence. Vous ne pouvez pas vous contenter de dire à votre conjoint qu'il aurait pu être plus clair. Vous êtes un couple, et les partenaires d'une même équipe. Qu'il joue son rôle est naturel. Que vous jouiez le vôtre est tout aussi naturel et évident. Alors cherchez à comprendre les demandes d'effort de votre conjoint vaut mieux que de s'énerver. La plupart du temps, face à une demande de sujet comme celui que je viens de donner, par rapport aux jeux vidéo, la réaction du conjoint est de s'énerver. Quoi ? Tu trouves que je dépense beaucoup alors que je n'ai acheté que 3 jeux vidéo cette année ? Partir dans cette direction n'aide ni l'un ni l'autre à avancer. Le mieux est de chercher à comprendre ce qui motive la demande d'effort au lieu de se centrer sur ses propres frustrations. Vous pouvez le faire en cherchant à identifier le domaine. Dans l'exemple que je viens de donner, je parle de la gestion des finances en relation avec les loisirs. Pour vous assurer de ce que vous demande votre conjoint, posez la question. Est-ce que ta demande vaut pour les dépenses de loisirs ? Poser la question est bénéfique pour vous comme pour votre conjoint. Répondre à une question aide généralement à prendre du recul, tout comme le fait de la poser. Donc ne focalisez pas, par exemple, sur les jeux vidéo, mais proposez d'aller vers le domaine pour vérifier ce que veut vous dire votre conjoint, pour vous informer de ce que veut vous dire votre conjoint, pour apprendre à connaître votre conjoint, naître avec votre conjoint, en voyant si la demande a pour objet de cibler uniquement les jeux vidéo ou si la demande est une manière d'exprimer une préoccupation personnelle. Si la réponse valide que la demande ne vaut que pour les jeux vidéo, vous pouvez continuer l'échange en cherchant à comprendre ce qui motive cette demande d'effort. Ce pourrait être, qu'est-ce qui te pousse à me demander cela ? Quelque chose te préoccupe dans nos finances en ce moment ? Vous voyez que j'ouvre davantage que simplement les jeux vidéo. Ce genre de questions tente à vous donner les moyens de cerner le domaine devenu sensible et qui pousse votre conjoint à vous demander de faire des efforts. Ne vous lancez pas dans un effort, ou plutôt ne vous lancez dans un effort qu'après avoir identifié le domaine en question. Et centrez votre attention sur les motivations de la demande de votre conjoint. Refusez-vous de faire des efforts pour tenter de satisfaire votre conjoint sur un sujet. Être à l'heure à l'école pour aller récupérer les enfants est un sujet, pas un domaine. Dans quel domaine entre cette demande d'effort ? Est-ce une demande pour que vous aimiez davantage vos enfants ? Est-ce une demande de respect de votre parole donnée ? Peut-être est-ce une attente de plus de maturité de votre part ou encore de gestion de vos priorités, que sais-je ? Vous ne pourrez répondre à aucune de ces questions sans connaître le domaine dans lequel votre conjoint voit ce sujet. Est-il normal de faire des efforts en couple ? La réponse est oui. Alors travaillez pendant cette semaine en ciblant les domaines et non plus les sujets qui sont éventuellement évoqués par votre conjoint, même si les demandes sont antérieures à l'écoute de cette émission. Vous pouvez travailler sur des demandes d'efforts qui sont vraiment très anciennes. Lors de notre prochaine émission, je vous donnerai davantage de clés pour que votre effort produise, pour que vos efforts produisent des résultats plus efficaces, grâce à cette approche par domaine. À bientôt. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette émission. Elle vous a fait du bien ? Alors allez sur iTunes ou Google Podcast et donnez votre avis en mettant 5 étoiles, ce sera vraiment sympa de votre part. Si vous voulez partager ce podcast, c'est facile. Une fois dans votre application podcast, choisissez le pictogramme « Partager » et envoyez le lien à vos amis. Surtout, n'oubliez pas de me laisser des commentaires et vos questions juste en bas de l'émission. Je me ferai un plaisir de vous lire. Je vous dis à bientôt.